Nous allons parler de Jésus aujourd'hui. C'est étonnant, hein? Non? On vient de chanter, hein? Jésus, Jésus, Jésus. Eh bien, nous allons continuer à parler de Jésus. Mais un Jésus qui bouscule. Jésus, il bousculait des fois, hein? Non? Et j'aurais presque pu intituler mon message comme ça. Un Jésus qui bouscule. Mais ce n'est pas comme ça que je l'ai intitulé. Je ne vais pas vous donner comment j'ai intitulé parce que vous auriez déjà presque le contenu du message. Mais je commencerai par une question. À votre avis, quels sont les deux plus grands événements mentionnés dans la Bible et qui sont au centre de la vie du chrétien né de nouveau? Les deux plus grands événements mentionnés dans la Bible. Ah, merci. D'abord, le premier, c'est l'œuvre de Jésus à la croix et sa résurrection, source de notre salut. Ça, c'est le premier. Déjà, c'est bien. Le deuxième, j'ai entendu, quelqu'un a dit, le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est le deuxième événement le plus important. Celui qui est à la naissance de l'Église et celui qui est à l'enlèvement d'Église. Ce moment où nous serons enlevés et réunis à lui pour fêter quoi? Les noces de l'agneau. On n'y pense pas souvent à ça, hein, qu'on aura ça à fêter. Et c'est bien ce dont nous témoignons à chaque fois que nous prenons la Sainte Cène. Non? C'est pas ça? Chaque fois que vous partagez le pain et le vin, vous commémorez la mort du Seigneur, premier événement, important, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. 1 Corinthiens 11, 26, dans la version Parole vivante. Donc c'est bien les deux plus grands événements. Et ça ne nous a pas échappé que nous sommes entre ces deux événements, non? L'un dont on connaît la date, lequel? Ben, le premier. Sans connaître la date. Hein. Et l'autre, qui peut survenir à tout moment et qui sera celui de l'enlèvement. De l'enlèvement de qui? De l'Église, c'est-à-dire ceux et celles qui lui appartiennent. Vous lui appartenez? Ouais, super. Alors Paul dit, qu'il se détourne du péché celui qui affirme lui appartenir. 2 Timothée 2,19. Lorsque l'on dit, ouais, je lui appartiens, ouais, qu'il se détourne du péché. Ainsi, notre nouvelle vie a commencé à la croix, et le point d'arrivée, c'est notre enlèvement lors du retour de Jésus, dont Paul nous dit que c'est cette venue que nous attendons ardemment pour nous sauver. Ardemment, on l'attend ardemment cette venue? Ardemment? Ardemment pour nous sauver. On n'est pas déjà sauvé? Eh oui, dans le sens d'achever l'œuvre de salut commencée en nous, salut qui ne sera complet que lorsque nous aurons reçu notre corps ressuscité. Alors, je ne vous demanderai pas, serez-vous prêt lors de son retour? Ce n'est pas la question que je pose. Parce que ça serait placer ce retour dans un futur plus ou moins lointain. Mais êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? En effet, Jésus nous dit dans Matthieu 24, 36, 34, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, Jésus, donc, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 36, 44. Il viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. On ne peut pas être plus clair que ça. Hein. C'est pas clair, ça. À qui est-ce que ça pose des problèmes, ça? Au niveau compréhension. C'est clair. Hein. Restez vigilant. C'est-à-dire conscient de la proximité de son retour. C'est ça, rester vigilant. Ça peut être maintenant. Se tenir prêt. Tenez-vous prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est ça, se tenir prêt. Et ce n'est pas seulement attendre passivement. J'attends. Mais c'est avoir fait les préparatifs. C'est ça, se tenir prêt. Avoir fait les préparatifs. Car il viendra à l'improviste, nous dit Apocalypse 16, verset 15. À l'improviste, c'est un terme aussi clair. Hein. Toutes nos spéculations ne changeront rien à cette grande vérité. On pourra spéculer ce que l'on veut, ça n'y changera rien. Si nous n'avons pas cette pensée constante de la proximité de son retour, nous risquons de ne pas être prêts. C'est humain. Une chose à laquelle on ne pense pas, pas assez. On ne s'y prépare pas. Hein. Ce retour, les apôtres y font d'ailleurs référence dans tous leurs enseignements. Plus de 300 versets et le présentent comme un élément fondamental de la foi. C'est pas rien. Hein. Pourtant, quelqu'un nous souffle. T'inquiète pas. Regarde. Ça fait plus de 2000 ans qu'il ne se passe rien. Non ? Alors, c'est pas pour aujourd'hui que ça va se passer, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Qui dit cela? Qui nous dit cela? L'ennemi de nos âmes, bien sûr. N'est-ce pas le même que celui qui a subtilement soufflé à Ève? Dieu a-t-il vraiment dit? Il ne change pas. Hein. C'est le même. Alors on spécule, on se rassure, mais la Bible ne nous encourage pas à calculer le moment du retour de Jésus. Non, elle nous exhorte à rester vigilants et nous tenir prêts. Et tout chrétien doit se sentir concerné par ce retour. Cependant, l'Évangile nous apprend qu'il y aura dans l'Église, dans les temps précédant cet événement, une grande indifférence générale. Des vierges qui dorment. La Bible ne parle pas de ça. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Matthieu 25, 5. Les vierges chez l'Église. La fiancée de l'époux. C'est nous. Et elles dorment. Je m'arrête, non? Réveillez-moi. Et en plus des fortes mises en garde de Jésus de rester vigilant et nous tenir prêts, il y a une de ses paroles qui m'interpelle tout particulièrement quand il parle de son retour. C'est celle-là. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Luc 18, 8. Elle bouscule cette parole quand même, hein ? Non ? À votre avis, il trouvera la foi sur terre ? Oui ? C'est étonnant cette parole. D'après les statistiques, il y aura environ 1 milliard de chrétiens sur Terre ayant une vie d'église régulière. Il y en a 2,3 milliards de confessions officielles chrétiennes. Et environ 1 milliard, donc, qui ont une vie d'église régulière. Et Jésus se demande s'il trouvera la foi quand il reviendra. Seigneur, 1 milliard de chrétiens sincères. Et tu te poses la question ? Mais rappelons-nous qu'il nous dit aussi « Étroite est la porte, resserrée, difficile est le chemin menant à la vie, il n'y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7, 13, 14. « Il y en a peu qui les trouvent. » Waouh, 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 waouh. C'est lui qui dit ça à Jésus. Hein. Vous arrivez à comprendre ça ? Moi, je dis mince. 1 milliard de chrétiens sincères et peu qui trouveront le chemin. Ne serait-ce pas que Jésus a une autre vision de la foi que celle d'une majorité de ceux qui disent lui appartenir ? Une autre vision de la foi. Déjà, donc, si la porte est étroite, ne serait-ce pas à cause des conditions exclusive du salut. Quand il parle d'une porte étroite, c'est qu'il y a des conditions exclusives. Quelles sont-elles ? La foi en Jésus seul, vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Hein. La foi en Jésus seul, seul sauveur, seul Seigneur, seul chemin, seul médiateur, seul sacrificateur, la foi en la parole de Dieu seul, seule vérité. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Alors oui, c'est un chemin resserré, et c'est bien pourquoi une majorité cherchera une route plus facile, parce que cette route, se donnant des conditions plus larges d'accès au ciel. Paul dit à Timothée, « Ils fermeront leurs oreilles à la vérité, et les ouvriront pour écouter des histoires fausses. » 2 Timothée 4,4. Dans la version Parole de vie. N'oublions jamais une chose, c'est que si Jésus offre effectivement le salut à tous ceux qui l'acceptent, c'est à ses conditions à lui, ses conditions. Et comme Jésus le dit, peu nombreux sont ceux qui le désirent assez pour venir à lui, à ses conditions, à lui, par l'unique chemin qu'il a prévu. Lui, et pas un autre. C'est donc pour une prise de conscience forte des gens que Jésus a déclaré que le chemin qui mène à la vie est étroit, et que seuls quelques-uns le trouvent, et qu'ils s'interrogent, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? C'est une réalité, hein ? Qui doit humblement nous amener à examiner la nature de notre foi. Pas à nous culpabiliser, mais à examiner notre foi. Car vous l'avez compris, notre éternité en dépend. Ce qui est l'enjeu le plus important de notre vie. C'est pas ça l'enjeu le plus important de notre vie ? Notre éternité ? Est-ce que c'est notre travail, notre famille, notre maison, notre voiture, notre porte-monnaie, nos actions, Non. Notre éternité, c'est ce qui est le plus important, l'enjeu le plus important de notre vie. Et Paul ne s'y trompe pas. Et nous dit, mettez-vous donc vous-même à l'épreuve, examinez votre vie pour voir si vous avez la foi. C'est Paul qui le dit. Hein. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. 2 Corinthiens 13, 5, parole vivante. C'est très fort, ça, comme exhortation, non ? Ça bouscule aussi. Hein. Jésus bousculait, Paul bousculait. Hein. Et quand vous lisez bien donc tous les épîtres, les textes des apôtres, Pierre bouscule, Jacques bouscule, Jude bouscule. Non ? Jean bouscule. Et là, Paul n'y va pas faire quatre chemins. Hein. Il s'adresse pourtant ici à une église, à des chrétiens, en principe convaincus d'avoir la foi. Alors pourquoi Paul dit « Examinez si vous avez foi » et que Jésus dit aussi « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Ne serait-ce pas parce que, peut-être, selon eux, outre la vraie foi, la foi qui sauve, il existerait aussi une foi illusoire qui ne sauve pas, ou hasardeuse. À réfléchir. C'est pourquoi ce besoin de différencier l'une de l'autre me semble vital, car on peut se laisser illusionner. T'inquiète, t'inquiète, sois tranquille, dors. Mais demeurer dans l'illusion peut entraîner des conséquences trop tragiques pour négliger de s'examiner soi-même sur ce point. Vous ne trouvez pas ? Non ? Dieu nous avertit par cette parole. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, Proverbe 14, 12. Et Jésus nous dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Luc 21, 8. Séduit ? Séduit. Non, pas moi. Non. Pas moi. Si Jésus nous alerte, prenons garde. Jésus ne parle pas dans le vide en général. Non ? Est-ce que Jésus parle dans le vide ? Non. C'est pourquoi, pour nous avertir, la parole de Dieu nous donne de nombreux exemples de personnes qui se croyaient sincèrement sauvées, mais qui avaient pourtant une foi illusoire. Et c'est d'abord ce que nous allons poursuivre ce matin. Et une autre fois, nous verrons ce que la parole de Dieu définit comme étant la vraie foi, celle qui sauve, celle qui nous unit à Christ pour l'éternité, la foi de ceux qui seront enlevés lors de son retour. Vous êtes d'accord, on continue ? Oui ? Alors on continue. Si vous me dites de m'arrêter, je m'arrête. On continue. Ok. Alors écoutez l'exhortation de Paul que Paul nous donne à ce sujet. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si... Sauvés si... Vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Vous auriez cru en vain, c'est bien la preuve qu'il y a une foi inutile. Illusoire. 1 Corinthiens 15, versets 1, 2, dans la version second 21. Là encore, Paul est percutant. Il insiste, ça doit vraiment lui tenir à cœur. Hein. Car comme Jésus, il veut qu'aucun de ceux que Dieu lui a confiés ne se perde. C'est ça son but. Et ici, le point essentiel, c'est suivre l'évangile tel qu'il nous a été annoncé, sans rien y rajouter, rien en retrancher. ni rien édulcoré. La vérité n'est pas relative, et propre à chacun. Chacun ne peut pas faire sa petite vérité à lui, prélever ce qui l'intéresse à la parole de Dieu. La vérité, l'évangile, est exclusif. La vérité est exclusive. Jésus est la vérité. C'est clair. Hein ? Et le seul fondement de la véritable foi. Amen. Spurgeon. Certains connaissent le nom Spurgeon. Pasteur, évangéliste, grand artisan du réveil, écrit à ce sujet, à propos de ce qu'on pourrait rajouter. Qu'oserions-nous proposer comme ajout à la parole sacrée ? Voudrions-nous coudre des haillons à un vêtement royal ? Pour lui, la parole de Dieu est un vêtement royal. Qu'aurions-nous donc à y rajouter ? Ce seraient des haillons qu'on rajouterait à un vêtement royal. Pourtant, très nombreux sont ceux qui ont fondé leur foi sur un mélange de vérité et d'erreur, sur des points majeurs parfois. Paul parle de fable. Cette foi, selon Paul, est vaine. Et nous pouvons nous laisser nous-mêmes subtilement abuser par des fables rassurantes. L'ennemi de nos âmes est infiniment plus rusé que nous ne le pensons, pour nous écarter subtilement de la vraie foi. Soyons vigilants, comme on l'a vu tout à l'heure. Soyons vigilants. Paul met d'ailleurs Timothée en garde en disant « Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les temps à venir, donc les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à des beaux parleurs. » Ah, ce n'est pas des hauts parleurs, hein. Des beaux parleurs. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs, ils deviendront victimes des discours mensongers. 1 Timothée 4, versets 1 et 2, dans la parole de vie. Leur foi serait ici inutile. Puis, tellement conscient du danger, Paul insiste encore et encore en parlant de chrétiens qui vivent comme ils l'entendent. Ça arrive, ça, des chrétiens qui vivent comme ils l'entendent ? Non. Certes, ces chrétiens qui vivent comme ils l'entendent resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. On aura l'impression. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. 2 Timothée 3,5. Leur foi sera encore là, inutile. Ils auront cru en vain. Où en est-on, nous ? Où en est-on ? Soyons donc très vigilants par rapport à ce qu'on nous dit, ou à ce qu'on nous enseigne, ou à ce qui peut nous sembler bon, vrai, avant d'en faire une conviction, voire un engagement, examinant toute chose, comme le dit la parole, à la lumière de la parole de Dieu, notre seule et unique référence. Amen. Alors, on peut être profondément sincère, hein, dans ce que nous croyons et faisons, profondément. Hein. Mais la sincérité ne suffit pas. Elle peut conduire à de graves erreurs. Une seule référence pour nous, la parole de Dieu. Et Jésus étant la parole, ceux qui ont dit Jésus ont bien répondu. C'est ainsi que Jésus lui-même nous exhorte à réfléchir sur la nature de notre foi. Quand il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs d'autres traductions, comme la parole de vie dit beaucoup, la version Semeur dit nombreux, me diront en ce jour-là, au jour du jugement, dit la parole vivante, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire des actes contraires à la loi. » Et donc quand on parle de loi dans la parole de Dieu, c'est enseignement, instruction, révélation, parole de Dieu, dit la parole vivante, Matthieu 7, 21 à 23. Je ne vous ai jamais connu. Jésus est direct là. Il est cache. Il ne joue pas à cache-cache avec nous. Il est cache. Il est question ici d'un grand nombre de gens qui l'appellent Seigneur, qui accomplissent des actes miraculeux en son nom, qui montrent leur foi par leurs œuvres, et qui pourtant n'ont pas la foi qui sauve. Jésus ne les connaît pas car ils ne font pas la volonté de son Père. Étonnant, non ? Étonnant. Et quel sévère avertissement quelque part. Déjà donné par Jésus dans Matthieu 5, 20, un peu avant, je vous le dis, si votre justice, quand on parle de justice, on parle de droiture, obéissance, fidélité, intégrité, conformité à la vérité, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. C'est aussi ce qu'il dira aux vierges folles. Mais quand on parle des vierges folles, on pense qu'elles sont un peu fadas. C'est pas ça, Mais quand il parle des vierges folles, il parle des vierges imprévoyantes, par opposition aux vierges prévoyantes. Donc, qu'est-ce qu'il dit aux vierges folles ? Je ne vous connais pas, aux vierges imprévoyantes, elles n'avaient pas prévu le retour de Jésus, ou mal prévu. À qui il fermera la porte de la salle des noces. Waouh ! Vous n'entrerez pas. Elle bouscule aussi ces paroles, non ? Ce qui montre l'extrême fermeté de Jésus, fermeté qui fait pourtant partie intégrante de son amour. Jésus ne transige jamais sur les conditions d'entrée dans le royaume de Dieu. C'est non négociable. Oui, mais Dieu est amour, il est tolérant. C'est ce qu'on entend dire pour justifier les dérives. Non ? Combien de fois j'ai pu entendre « Oui, mais Dieu est amour. Ouais. » Qui dit cela ? Qui dit cela ? L'ennemi de nos âmes encore, dans ce cas-là. Son but ? Nous détourner de la vraie foi. Oui, Dieu est amour, oui. Mais Dieu est justice. Amen. Vous savez, contrairement aux idées reçues, Jésus n'est pas peace and love. Son amour n'a rien de sentimental. Son amour est intimement lié à la vérité. Et l'annonce de la vérité fait partie intégrante de son amour. Les deux sont indissociables. Et il nous avertit ici sévèrement, par amour, pourquoi ? Afin qu'aucun ne se perde. Voilà quel est le niveau de son amour, afin qu'aucun ne se perde. Et prétendre, pour notre part, aimer quelqu'un et le laisser perdre son âme n'est pas l'amour auquel Jésus nous appelle. Jésus n'a pas hésité à bousculer ses auditoires. Son principal souci était celui du salut des âmes que son Père lui avait confiées. Non ? Ce n'était pas ça son principal souci ? Vous n'êtes pas convaincu. Et son message, par amour pour les âmes, n'a jamais été ni séduisant, ni accommodant, mais exigeant. C'est ça, l'amour selon Jésus. Merci Jésus pour cet amour parfait que tu as à l'égard de chacun de ceux que le Père t'a donné, afin qu'aucun d'entre eux ne se perde. Alors revenons à l'avertissement de Jésus envers ceux qui s'estiment sauvés, mais dont la vie n'est pas soumise à Dieu. Qui entrera au ciel ? On l'a vu. Ah, donc ce sera bon à répéter. Qui entrera au ciel ? On l'a lu tout à l'heure. Celui qui fait la volonté de mon Père. Autrement dit, celui qui ne vit pas dans l'obéissance à cette volonté ou à ses paroles, donc celui qui ne vit pas dans cette obéissance, ses paroles, Seigneur, Seigneur, ou ses œuvres auront été insuffisantes. De reconnaître donc verbalement comme Seigneur, 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 est insuffisant si nous ne nous soumettons pas à lui comme seul Seigneur. Non ? Jésus n'est pas uniquement notre Sauveur. On fait souvent donc Jésus notre Sauveur. Oui, il est notre Sauveur. Oui. Merci mon Dieu. Mais il est aussi Sauveur et Seigneur. Les deux sont intimement liés. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas Seigneur en tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Luc 6, 46, pourquoi ? Et faire ce qu'il dit, ça commence par quoi ? Ça commence par quoi ? Si je veux faire ce qu'il dit, à votre avis, ça commence par quoi ? Rechercher ce qu'il dit. Comment puis-je savoir ce qu'il dit si je ne recherche pas ce qu'il dit ? Donc ça nécessite tout de même un effort de notre part déjà, de recherche. Cherchez et vous trouverez, dit Jésus. Hein. Cherchez quoi ? Ben là, c'est rechercher sa parole. Donc ça commence par rechercher ce qu'il dit. Comment ? Ben, dans la parole, qui elle-même est inspirée d'Esprit de Dieu. Et rechercher, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi soumettre, oui. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu 7, qu'on a lu tout à l'heure, sermon sur la montagne, les personnes étaient ferventes, vous ne trouvez pas ? Seigneur, Seigneur. Pieuses, à trois reprises, elles répètent, par ton nom, par ton nom, par ton nom. Elles étaient occupées à travailler au nom de Jésus et même à faire des œuvres extraordinaires. Non ? Pensant qu'elles le servaient avec zèle. Alors quelle désillusion pour elles. Quand Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Ajoutant que leur vie n'était pas soumise à Dieu son Père, ni à ce qu'il disait. Pourquoi ne faites-vous pas la volonté de mon Père ? Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Où en sommes-nous ? Nous ? Jésus nous apprend ici que l'obéissance est la clé pour plaire à Dieu. Il ne regarde pas ce que nous accomplissons, mais c'est la manière dont nous lui obéissons. C'est totalement différent. La foi authentique est indissociable de l'obéissance. Sans cette foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Et au travers de cette foi obéissante, oui, qu'est-ce que Dieu veut ? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La parole vivante dit « car il attend de nous une vie sainte » 1 Thessaloniciens 4.3. Ce que Dieu veut, au travers de cette obéissance, notre part à son égard, c'est notre sanctification. Waouh ! Réjouissons-nous ! Là encore, c'est cette sanctification transformatrice que Dieu veut pour nous préparer au retour de Jésus. Sanctification sans laquelle personne ne verra. Donc, il y a un autre verset à ce sujet. Rechercher la sanctification, c'est-à-dire la progression de la sainteté. Version seconde 21. Sanctification, parfois on ne sait pas trop quoi mettre derrière ce mot, c'est la progression de la sainteté. Rechercher la progression de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Alors bien entendu, et je terminerai par ça, tendre vers la perfection ne signifie pas ne jamais trébucher. Mais ceux qui ont cette foi authentique ont en eux le désir réel et profond d'obéir. Tout par-delà. Tout par-delà. Même si parfois, involontairement, ils suivent le Seigneur de façon imparfaite, mais tout part du désir réel et profond d'obéir. Ainsi, la vraie foi en Dieu, doit naître un désir sincère et profond de se soumettre à sa volonté et de se laisser transformer par le Saint-Esprit, son Esprit. Et celui avec cette foi authentique, celui donc qui a cette foi authentique, peut être certain d'une chose, certain. Comme nous le dit Hébreux 12, 2, dans la version Nouvelle Français Courant, certain que quoi ? Que Jésus, sur qui nous fixons nos regards, celui par qui notre foi a commencé, c'est lui qui l'amènera à la perfection. C'est lui qui mènera notre foi à la perfection. On peut en être certain. Et pourquoi a-t-il envie de mener notre foi à la perfection ? Pour être sauvé ? Oui. Ouais. N'oublions pas une chose, on a commencé par ça. Parce qu'il est notre futur époux, et qu'il veille sur la préparation de sa fiancée, l'Église, dont nous sommes chacun une part. C'est pour ça qu'il veut nous amener à la perfection. Lui qui est parfait. Non ? Pensez pas ? Et qu'il n'épousera qu'une fiancée qui aura montré durant le temps des fiançailles, c'est ce que l'on vit en ce moment, qu'elle le désire, lui seul, plus que toute autre chose, et qu'elle aura montré foi, obéissance et fidélité à son futur époux. C'est pour ça qu'il nous prépare. C'est pour ça qu'il veut notre sanctification. C'est pour ça qu'il veille sur ceux qui le désirent Ceux qui ne le désirent pas, il ne va pas veiller. Hein. Par contre, il va veiller, prendre soin de ceux et celles qui le désirent. Il n'attend pas une courtisane, Jésus. Mais une fiancée. Ceux qui veulent pourront faire un petit peu la différence entre courtisane et fiancée. Une fiancée qui soit fière, digne de lui, qui lui fasse honneur et qui sera ainsi prête lors de sa venue. Est-ce notre cas ? Posons-nous la question, examinons-nous nous-mêmes, que disait Paul. Voici celle qu'il ressuscitera, enlèvera et épousera lorsqu'il reviendra soudainement, à l'improviste. Désirons-nous en être ? Oui. Ah, j'ai entendu un oui. Oui, trois oui. Ah, ça y est, ça augmente. Parce que ça peut être oui, ça peut être non, peut-être, peut-être. Ou alors, pas tout de suite. Lui, vous savez, il n'attendra pas. Hein. Alors si oui, comme j'en ai entendu, et pour reprendre des paroles partagées ce matin, examinez votre vie pour voir si vous avez la foi. Trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra ? Sera-t-il amené à nous dire « Je ne vous ai pas connu » ? J'espère que non. Mais plutôt, comme le dit Apocalypse 19:7, que nous puissions entendre cette voix sortant du trône, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui de gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. C'est pourquoi recherchez la sanctification, la progression de la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et enfin, appliquez-vous à être trouvé par lui lors de son retour, sans tâche et irréprochable dans la paix, 2 Pierre 3, 14. Alors en attendant, appliquons-nous à l'obéissance de la foi, avec cette forte conviction d'une chose, et qui doit toujours être la même lorsque nous lisons la parole de Dieu. Lorsque nous lisons les paroles de Jésus, cette forte conviction que Jésus pense vraiment ce qu'il dit. Jésus pense vraiment ce qu'il dit. Et que ce qu'il nous dit est à prendre réellement au sérieux. Non ? Si Jésus pense ce qu'il dit, n'est-ce pas à prendre au sérieux ce qu'il dit ? Bon, je terminerai par une citation de Spurgeon. La foi qui sauve désire Christ tout entier. Pas une partie, tout entier. Bon, merci Seigneur pour cette parole que tu as voulu nous transmettre. Notre désir est vraiment de rechercher la sanctification comme tu nous y exhortes, afin de progresser dans la sainteté, afin de progresser sur ce chemin où tu nous amènes jour après jour à une ressemblance plus proche de Jésus, ton Fils. Et tu veux que nous appliquions à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Alors notre désir le plus profond, même si nous sommes encore imparfaits, et ça nous le savons, même si nous arrivons encore de trébucher, et ça nous le savons, notre désir est de tendre vers cette perfection, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur, nous soyons des tiens, enlevés et que nous puissions, avec toi, célébrer tes noces, les noces de l'agneau. Quel merveilleux moment nous avons devant nous. Que ce soit vraiment ce qui guide nos vies jour après jour. Avoir toujours devant toi ton retour Seigneur, c'est vraiment ce qui doit guider nos vies. Le regard tourné vers toi et vers celui où nous serons ce jour merveilleux, enlevés avec toi à jamais pour l'éternité. Amen.